Entretien littéraire, Mathias Sénard.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. Souhaitons la bienvenue aussi à Simon Johannin, avec qui j'ai la joie de m'entretenir aujourd'hui. Bonjour Simon Johannin.
Bonjour.
Simon Johannin, je vous lis depuis votre premier roman, déjà aux éditions Alia, L'été des charognes, paru en 2017. Vous aviez publié un second roman intitulé « Nino dans la nuit », coécrit avec Capucine Johannin, et est aussi l'auteur de recueils de poésie, dont « La dernière saison du monde » et d'un dialogue amoureux et poétique intitulé « Sobrement le dialogue ». Nous sommes très heureux de vous voir revenir au roman avec « Ici commence un amour », récit d'apprentissage et d'initiation où un narrateur nommé Théo se présente à nous par cette phrase, la première phrase donc, « J'ai perdu Gloria un soir de novembre ». Est-ce que c'est comme ça qu'ont commencé pour vous les aventures de Théo, Simon Johannin, par cette phrase ?
Oui, elles ont commencé par cette phrase, mais je savais pas encore que c'était Théo qui parlait. Je savais pas qui parlait à ce moment-là, mais c'est vrai que le livre, à peu de choses près, était écrit de manière chronologique. En tout cas, la première page, ça a été le premier mot que j'ai posé, puis ensuite j'ai déroulé... Petit à petit, mais cette page, elle a été à part, toute seule, pendant plus d'un an. Voilà, elle est tombée, et puis je l'ai ramassée. Et ensuite, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que c'était le début de quelque chose d'un peu plus conséquent.
Alors Théo, c'est un peu le centre du texte, parce que c'est lui qui nous raconte. C'est sa vie, son histoire. On reviendra sur le personnage de Gloria et sur la structure du livre. Théo veut devenir écrivain et sur le point de devenir écrivain, et il publie son premier roman. Et lorsque le roman s'ouvre, Théo sait, dit-il, que sa charge karmique naviguait plutôt dans les eaux profondes du négatif.
Ouais, mais c'est-à-dire qu'il est un peu... comment dire, mes personnages, c'est des personnages jumeaux qui, à chaque fois, empruntent aux énergies d'une partie de mon existence. Et là, je pense que j'avais des choses à régler. Et donc, je lui ai prêté une forme de karma, en tout cas, une forme de bataille, voilà, à livrer avec le quotidien. Une bataille psychique, spirituelle pour lui, puisqu'il est... Il n'est pas trop à plaindre dans ce qui est du matériel. Mais ouais, il y avait cette envie de le projeter dans un espace mental, presque psychanalytique, d'analyse de lui et de ce qui l'entoure pour essayer de trouver des armes, des solutions, des assises psychiques pour s'en sortir dans le monde d'aujourd'hui. Ouais.
Alors l'écriture, c'est à la fois son métier, sa passion, il a un rapport quand même assez ambigu avec ça, c'est un peu ce qui fait le fil conducteur du roman aussi, ouais. Il a des amis qui sont dans ce milieu-là. J'ai calculé par les quelques petites traces ou allusions qu'il y a à l'actualité qu'on est plus ou moins en 2017 ou 2018, ce qui correspondrait, sauf si je me trompe complètement, ce qui est possible, mais ce qui correspondrait aussi à la sortie de votre premier roman. Et je me demandais si dans les expériences justement de ce Théo, il n'y avait pas un peu de Simon Johannin, auteur, découvrant le milieu de la littérature à Paris.
Oui, complètement. Alors vous avez raison et vous avez tort pour les dates, parce que moi ce qui m'a plu dans l'écriture de ce livre, c'est de brouiller les lignes du temps et des espaces. Et c'est pas chronologique et donc il y a des choses qui puisent dans un contemporain déjà passé, des choses plus actuelles, et puis même dans la structure du bouquin, le temps, je l'ai voulu pas linéaire. Et effectivement, il y a beaucoup de choses que je raconte qui sont des choses que j'ai vécues et que je fictionnalise juste par le travail de la langue dessus, mais où le... On va dire la porosité avec le réel est plus fine que dans mes autres textes, quoi. J'ai mis beaucoup de moi et de mes propres expériences que j'ai offertes et données à Théo parce que j'avais pas besoin d'en inventer d'autres. C'était déjà suffisamment romanesque et à propos pour moi. Et puis à propos d'un milieu qui est celui que je connais, dont je fais partie, avec lequel je travaille tous les jours. Donc j'ai pu très facilement me nourrir de ça.
Alors dès le départ apparaît un personnage qu'on retrouvera à la fin du texte, c'est Jean Genet. Oui. Et on a l'impression que c'est un peu lui aussi qui fait un axe invisible au milieu du texte.
Mais c'est un saint qui veille sur moi, Jean Genet, ouais. Je sais pas trop vous expliquer le rapport que j'ai à cet écrivain, parce que c'est vraiment très... indicible, et ça plane toujours sur moi, sa langue, elle plane toujours avec moi. J'ai l'impression que des fois qu'il avait des anges qui lui chuchotaient des choses aux oreilles et que j'en ai d'autres, mais que j'entends à un endroit où en le lisant j'ai appris à entendre, en tout cas.
Et vous citez cette phrase du Funambule, on n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé, puisque de toute misère se tisse une belle étoffe lorsqu'on écrit, que la création profonde ne prend racine que dans le malheur profond.
Alors je vous avoue que j'ai triché, c'est-à-dire que la phrase de Genet s'arrête à « on n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé » et le reste n'est pas de lui, c'est de moi, je l'ai mélangé. Et je m'amuse à plusieurs moments comme ça dans le livre, avec Dostoïevski aussi, ou en tout cas à pas mettre les citations entre guillemets, mais de les mettre dans le flux du texte et que ce soit la pensée de Théo ou sa parole qui à un moment donné nous fasse comprendre qu'on n'est pas dans ma langue mais dans celle de quelqu'un de bien plus important que moi.
Mais c'est justement ce qui est assez magique dans cette phrase de Genet, c'est que ça permet de voir justement le malheur sans avoir besoin de le décrire, ou la douleur qui est derrière le personnage de Théo, dont on a l'impression qu'il est tellement présent à son écriture que tout se joue là, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre d'une tension absolue qui nous amène, un peu comme on dévalerait une pente, du début à la fin du texte.
Oui, c'est un peu la question de la nécessité de créer. C'était ça que je voulais retrouver. Vous savez, une fois que ça marche, qu'on a rêvé que ça marche et que ça fonctionne et qu'on peut brûler les idoles, quoi, les images, la symbolique qui va avec l'activité, il y a vraiment ce besoin déjà de raconter, de dire qu'en fait la vérité n'est pas là. C'est pas là qu'il faut chercher, qu'il faut continuer le travail et chercher ailleurs, et puis de retrouver une nécessité profonde de la création, de qu'est-ce que c'est de créer, pourquoi on fait ça, pourquoi c'est si important pour moi, pour d'autres, et puis parfois pour les gens qui vont me lire ou croiser le travail des artistes. Il y avait un peu vraiment cette envie de remettre les choses à plat et de retrouver une vérité, quoi, de reconnecter avec vraiment une nécessité profonde, archaïque, de la création, comme elle s'est faite jusqu'à présent et comme elle se fera une fois qu'on sera mort.
Donc ici commence un amour, c'est une affaire de transformation, de nombreuses transformations dans le temps. Alors ici commence un amour, mais en réalité il se termine au moment où on ouvre le livre. Et il y a cette transformation de ce personnage qui est Laurette, amie de Théo, et qui elle aussi va se transformer. Parce que Théo, il vaut aussi par ce qui l'entoure.
Tout à fait. Ouais.
Et il a énormément de reflets un peu autour de lui qui sont une façon de le rattacher, voilà, à la réalité et de le lire un peu comme en miroir.
Tout à fait. Il y avait vraiment cette envie de faire un personnage qui, par ses creux, se fait pénétrer par le monde, par ses oreilles, par sa bouche, par son nez, voilà, d'être en écoute de l'environnement et des gens qui l'entourent. Et donc, ce personnage de Laurette qui fait une transition et qui devient Marcus, ça fait partie comme ça des métamorphoses. D'abord, tout simplement, pour des raisons intimes, parce que c'est des expériences de partage que je traverse et qui me touchent et qui racontent aussi une époque. Mais aussi parce que je voulais, voilà, remettre de la complexité dans le masculin, les masculinités, d'avoir comme ça beaucoup de garçons différents, par leur sexualité, leurs origines, leur rapport aux gens, mais qui parlent d'eux et qui parlent de Théo, et comme vous l'avez dit, qui lui renvoient des facettes différentes du même miroir avec lesquelles lui, il peut porter un regard honnête aussi sur lui et arriver à faire ce chemin intérieur qui reconnecte un peu ses canaux et qui fait que, voilà, l'énergie circule enfin en lui et il arrive à se voir et à s'entendre, quoi.
Oui, à s'entendre aussi, parce que c'est ça qui est important, c'est ce que lui renvoie, même pour son écriture, les gens qui l'entourent, et notamment cet ami qui est lui aussi écrivain, Laszlo, qui lui est vraiment un compagnon d'écriture. On a l'impression qu'il pourrait écrire le même livre, ou qu'ils sont en tout cas presque en train d'écrire le même livre.
Oui, il y a une complicité affective, parfois intellectuelle, mais l'amitié n'est clairement pas basée là-dessus pour eux. Il y a ce plaisir d'être bêtes ensemble qui est très présent, et puis une pudeur dans les rapports qui, moi, me touche, et que j'ai voulu tenter de traduire. Mais oui, il y a cette idée de communauté d'artistes, de réfléchir ensemble, de se poser des questions, d'être solidaires aussi, d'avoir des rapports bienveillants les uns avec les autres, de contrecarrer un peu les schémas de compétition, de prédation avec lesquels on a grandi, dont on est héritier, et d'essayer de trouver des manières de fonctionner ensemble différentes. Tout ça, c'est en creux, c'est intuitif pour eux, mais c'est l'histoire que je raconte, ouais.
Et Simon Johannin, dans Ici commence un amour, il y a un effet presque chamanique. On a l'impression que la parole naît comme ça, justement, de cérémonies communes, même si c'est Théo qui nous la raconte. Et on boit aussi beaucoup, un peu comme si l'alcool était une façon de faire advenir un peu quelque chose entre nous, comme si l'espace collectif était habité par ses discours, ses erreurs, ses chutes dans la rue. Voilà, tout ce qui vient, un peu ce qui naît de l'ivresse.
Ouais. Bah oui. Alors moi, je crois complètement à la portée magique de l'écriture, et de l'ivresse aussi dans une certaine mesure. Et donc oui, il y a des états, il y a des activités, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, les parois entre nous et le pot commun de l'inconscient collectif s'affinent, et là ça peut gazer très fort, quoi. Et c'est vrai qu'il cultive ça, il y a cette idée-là. À ce propos-là, on est dans une phase assez étrange, parce que nous, en France, en Occident, on a complètement déconnecté avec les cultures païennes et avec ce rapport-là à l'univers. Quand bien même il a existé avant une certaine époque, et il y a une nécessité très forte actuellement de retravailler ces muscles-là, cette psyché-là. Mais il n'y a pas d'outils, il n'y a pas vraiment d'héritage, donc ça se passe quand ça doit se passer, quoi. C'est assez drôle, moi je le vois dans l'écriture, dans les personnes qui écrivent autour de moi, que j'aime et que j'admire, il y a vraiment cette conscience qui naît petit à petit que par l'écriture, d'un coup, on se met en contact avec des choses qui nous sont d'ordinaire complètement étrangères, et on s'efface pour parler avec des éléments, avec des paysages, avec des fantômes, avec plein de choses qui utilisent, selon moi, la poésie pour communiquer avec nous, quoi. En tout cas, c'est ma manière de me raconter mon travail qui fait que c'est excitant.
Mais qu'est-ce que serait, dans ce cas-là, la poésie, justement, dans un travail comme Ici commence un amour? Elle est là, justement, comme cet espace magique qui viendrait au-delà d'une prose qui serait plutôt celle du quotidien?
Oui, je pense qu'il y a ce côté un peu méta qui amène la poésie. En tout cas, c'est comme, pour moi, user de poésie, parler à travers la poésie, c'est comme, d'un coup, prendre la réalité par un angle par lequel je ne serais pas habilité à l'avoir d'habitude. Alors je deviens pas un animal, mais je prends un angle poétique qui fait que, voilà, je peux faire un pas de côté. Et de plus en plus, j'ai l'impression que c'est ce qui m'intéresse plutôt que de maquiller un réel par des anecdotes ou des faits, voire par un regard poétique qu'il transcende. Et l'écrire à travers ce regard-là, ça me paraît plus intéressant et plus honnête, de plus en plus, quoi. Jusqu'à présent, voilà, j'écrivais des poèmes parce que j'avais la sensation qu'avec les poèmes, je ne trichais pas là où dans le roman, je pouvais tricher. Et là, dans ce livre, j'ai mélangé les deux, ce qui fait que je ne triche plus.
Justement, parce qu'il y a même un personnage, Gloria, donc qui nous est apparu dans cette première phrase, qui est présente, en tout cas à qui on s'adresse aussi, ouais, par des poèmes. Et donc le texte devient hybride, multiple. On sent qu'il peut embarquer un peu toutes les formes possibles, toutes les façons de dire possibles, et notamment ce rapport à Gloria, ce traîne un peu de Gloria, de la perte, ouais, de Gloria, qui est éminemment poétique.
Oui, parce que j'avais aussi... voilà, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à me rendre compte de ce que j'étais en train de faire et de ce dont je parlais, c'est-à-dire aussi du métier d'écrivain, qu'est-ce que c'est que d'écrire quand on le découvre, et il y avait voilà cette envie de montrer effectivement des poèmes, des pages de carnet, d'être dans le une forme de matière, un peu de mise en abîme, c'est-à-dire que voilà, il y a le livre qu'on tient dans les mains, mais dans le livre, il y a un livre, il y a des carnets, il y a plusieurs choses comme ça qui renvoient à la réalité de Théo et de son travail d'écrivain, et puis de sa, encore une fois, hein, sa nécessité de dire à un moment donné... quoi qu'il m'arrive de terrible, je pourrais toujours en faire un poème, mais c'est vrai qu'il y a, il y a ce truc qui est quand même un cadeau de la vie, de pouvoir constamment, par l'écriture, transcender les choses, rebondir et s'en servir pour avancer, en tout cas les faire basculer devant quelque chose de vertueux pour nous, quoi.
Et justement, pour en revenir à Théo, ce qu'on suit, c'est aussi la réaction de Théo à la publication de son livre. Donc on voit à quel point il est ému, justement, il pleure dès qu'il reçoit le livre. On voit ce que c'est que de participer, de rentrer dans un nouveau milieu professionnel aussi étrange que celui de la littérature, d'être dans des prix littéraires. Je me souviens qu'il y a une phrase où vous dites les prix littéraires, c'est très très bien, puisqu'au moins il y a à boire. Un peu, c'est un de leurs gros avantages. Et on passe à la télévision. Enfin, c'est toute une transformation, en fait, du monde, mais pas du côté de la réalité. On a l'impression que plus on avance dans ce monde-là, en fait, plus on avance du côté de l'illusion.
Tout à fait.
Et la réalité, elle ne peut renaître que du texte, justement, de la poésie, de Gloria, de la réalité du texte.
Oui, ben c'est exactement ça, hein. Il y a vraiment ce chemin qui te fait où, effectivement, malgré toute l'émotion et le plaisir, l'ébranlement que suscite la publication, il commence à ne plus toucher terre quelque part parce que il rentre dans un monde d'illusions et d'images, et donc de retrouver en lui une forme de sensation de profondeur et d'aller chercher ça par l'écriture, c'est ce qui lui permet de garder son chemin, et ce qui a été mon cas aussi. Et puis à travers tout ce milieu que je décris, et l'alcool et tout ça, c'est parce que je me suis rendu compte que j'étais placé dans une lignée. À un moment donné, j'arrive dans une époque, il y a énormément de gens qui ont écrit avant, il y a eu tout le XXe siècle, tous les écrivains que j'admire, ou la plupart d'entre eux, ont un rapport, on va dire intense, voire destructeur à l'alcool. Il y a un truc comme ça de culture, en fait, que j'ai trouvé assez étrange, comme s'il y avait toute une panoplie d'éléments qu'il fallait porter avec soi, avoir avec soi pour jouer socialement le rôle de l'écrivain, et qui n'étaient pas forcément des choses, en tout cas, qui n'avaient plus lieu d'être pour moi à l'heure actuelle. Donc il y avait un peu cette idée à la fois d'assumer, de faire partie de cette histoire et d'être placé dans cet héritage, et en même temps d'avoir conscience qu'on est dans une époque où il y a des choses à réinventer et des structures à démanteler pour pour en monter des nouvelles, quoi. Alors, moi, le milieu que je connais, c'est le milieu littéraire, donc c'est celui dont je suis légitime de parler, mais ça aurait pu se passer ailleurs, dans d'autres circonstances. J'aurais pu raconter une autre histoire qui raconte une autre trajectoire d'un autre jeune homme qui se rend compte qu'il est quelque part pris en porte-à-faux entre un héritage et une conscience et des envies, mais que c'est plus facile de reproduire les choses que d'en inventer de nouvelles. Et donc, comment on fait? C'était un peu tout ça qui traverse le livre.
Et sinon, Johanna, il y a aussi dans le roman ce rapport extrêmement joyeux à la littérature, le plaisir du bon mot, du rire. On rit beaucoup dans le récit. On se moque pas mal, mais on rit beaucoup.
Oui, moi je rigole beaucoup en écrivant. Enfin, pour moi c'est une activité joyeuse. On m'a demandé récemment, parce qu'à un moment donné Théo dit dans le livre écrire quel acte d'angoisse, si pour moi c'était la même chose, pas du tout. J'ai un plaisir énorme à l'écriture. Alors évidemment il y a des moments où c'est plus facile que d'autres, mais j'ai une jubilation et une joie extrême à écrire. Et donc je voulais, je pense que c'est ça qu'on ressent aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce plaisir de la recherche du mot. De la trouvaille, quoi. Mais qui est un truc qui est très presque enfantin, hein. Comme quand enfant, je creusais des talus pour trouver des eaux et que je trouvais quelque chose. Il y a un peu cette même idée de creuser des talus et de trouver des choses au milieu, toujours, quoi. Et aussi parce que l'humour, pour moi, c'est l'acidité, même parfois, voire le cynisme, c'est un moyen de trouver qu'est-ce qui résiste. Parce que ceux qui ne résistent pas à l'humour, généralement, c'est pas bon signe, quoi. Faut avoir un peu d'autodérision et accepter le regard de l'autre à cet endroit-là. Théo, il navigue un peu dans tout ça, hein, des fois entre un humour qui est sain et puis une forme de cynisme, ce qui peut être délétère. L'espace de l'écriture, c'est un espace pour se décharger de tout ça aussi, quoi.
Et puis c'est aussi un côté social, l'humour. C'est aussi ce qu'il partage avec Laszlo, entre autres.
Hein. Tout à fait. Ouais.
Laszlo aussi a ce même genre de façon de voir le monde, comme si ils n'avaient pas encore été contaminés par leur propre texte, en fait. On a l'impression qu'ils sont encore cette fraîcheur qui leur permet une distance entre ce qu'ils font et ce qu'ils vivent au quotidien.
Oui, je pense qu'il y a un truc encore adolescent en eux qui fait que le plaisir d'être bête ensemble prend le dessus sur le plaisir d'être intelligent à deux, quoi. Et puis ça, c'est aussi pour parler d'une certaine culture de bistrot, d'amitié profonde, mais qui se joue autour de comptoirs et voilà, que j'ai vécu moi pour ma part à Paris, en certains moments dans un certain café, et où voilà, pendant quelques années, il y a eu une émulsion comme ça d'écrivains, d'artistes, de gens de la mode qui étaient juste là pour le plaisir d'être ensemble et où ça fusait vraiment, quoi. Et c'est une manière aussi d'exprimer l'affection qu'on a pour l'autre. C'est-à-dire trouver un moyen de se moquer de lui, qui lui est absolument propre et qui va puiser dans ses ressorts intimes. C'est un truc que je trouve extrêmement touchant. Ça veut dire qu'on se connaît, quoi. Et c'est une manière de dire à l'autre, je te vois, je te sais, je te connais et je t'aime. Et je trouve ça beau, tout simplement.
Simon Johanna, dans Ici commence un amour, on lit le roman, en tout cas une partie de ce qui devient le roman de Théo, qui s'appelle Le Misérable.
Ouais.
Et ça participe de ce côté hybride, un peu en morceaux du texte. Mais en même temps, ça nous donne une autre image un peu de Théo, et ça donne cette distance qui vous permet justement de le raconter d'une autre façon.
Ouais. Ouais, encore une fois, il y avait ce truc un peu de la figure de l'écrivain que je voulais un peu crever, quoi. Donc, parce qu'il y a moi qui écris mon livre, il y a Théo qui écrit son livre, avec un personnage principal qui s'appelle Paul, qui écrit aussi un livre. Donc, il y avait un truc un peu masturbatoire, comme ça, du mec qui écrit, que je voulais un peu en finir avec ce truc et le lui donner une teneur un peu ridicule, quoi. Et c'est vrai que Le Misérable, donc le manuscrit dans le roman, le travail de Théo que j'inclus dans le mien, d'un coup il donne à voir une autre facette de lui, parce que le livre est profondément réactionnaire et met en scène un personnage qui est absolument infâme.
Et pas drôle du tout.
Pas drôle du tout, non, qui pour le coup qui est vraiment d'un mauvais cynisme et dans une méchanceté, dans le rapport au monde, dans une méchanceté qui s'explique, en tout cas que lui explique par une humiliation vécue, un manque d'amour et... voilà, une culture du morbide, quelque part, hein, au sens général, qu'on lui a légué et dont il a décidé de ne pas se départir. Et c'est un moyen pour Théo et pour moi aussi d'assumer une forme de violence dans un espace de création, de la réfléchir, de la porter, et de la questionner, et de s'amuser avec aussi. Un des angles, c'était de me rendre compte que, voilà, dans la psychose morale qui nous habite parfois en ce moment, il y a cette idée qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rien écrire, etc. Je trouve absolument... bête, il suffit juste de trouver des nouvelles formes pour dire les choses. Effectivement, il y a des manières de dire qui sont dépassées, qui sont non avenues à l'heure actuelle, mais tout simplement parce qu'il y a des formes à inventer et qu'il faut leur faire de la place. Et donc moi, c'est toujours une tentative de forme que je fais à travers tout ça.
Ou peut-être est-ce que les formes finalement anciennes vont finir par, au contraire, se revivifier d'elles-mêmes, et il suffit d'y injecter peut-être de la vérité, justement.
Ça, oui, je pense que c'est avant tout une question d'intention et d'honnêteté, oui, de vérité. Après, on peut se tromper, hein, mais moi, j'ai assez confiance en ça, à partir du moment où, peu importe ce que je fais, j'ai une forme d'ancrage et je le sens, quoi. Généralement, ça se passe bien, quoi.
Il y a un moment dans le roman où on touche à cette magie dont on parlait tout à l'heure, c'est cette séance de tirage de cartes.
Ouais.
Et qui justement, alors on est à Marseille, donc bon, le tarot s'appelle aussi de Marseille, même si ça n'a rien à voir. Et là, on voit un peu comment est-ce qu'on peut mettre en jeu ou en lumière une lecture du réel qui passe par des images, un imaginaire, et qui donne encore une autre façon de rentrer dans le livre.
Oui, oui, moi j'ai beaucoup recours aux symboles dans mon écriture, et c'est vrai que les traditions alchimistes, le tarot en particulier, c'est une ressource inépuisable, et c'était aussi une manière de remettre du sens pour moi, parce que alors c'est très en vogue en ce moment, il y a toute une culture du développement personnel, de l'ésotérisme, voilà, du spirituel au sens large, mais qui est très libéral à mon sens, et qui est très déconnecté d'une forme de savoir qui est importante dans la manipulation des symboles et des archétypes. Et moi, je suis pas féru d'astrologie d'une manière générale, mais j'aime beaucoup dans le tarot les exercices spirituels que proposent et convoquent les symboles du tarot. Et du coup, ça me paraissait important, intéressant de mettre ça en place à un moment donné et de donner 2-3 clés aussi à travers ça. En tout cas, de tenter de faire comprendre la complexité et l'importance de ce que c'est qu'un symbole et de comment on travaille avec et de pas être dans une lecture qui donne justement un discours fini sur les choses. C'est ça qui me dérange, moi, avec tout ce qu'on peut croiser autour de ces univers. C'est la manière dont ça va essentialiser l'univers, alors que c'est des portes sur la complexité du monde, pour moi.
Et c'est aussi une façon de construire un récit, par ces différents fragments que sont, oui, que sont les lames.
D'avoir et puis une séance comme ça de dialogue très intense, très étalée au milieu du livre. Et puis c'est beau, en fait, tout simplement.
Et puis l'humour est jamais trop loin, parce qu'il y a un moment où il y a Laszlo qui dit que, lui, en question d'astrologie, il est Merlot ascendant Syrah, je crois.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est pareil, c'est des choses, des fois, écoutez, on les entend et il n'y a pas un mot à rajouter, une virgule enlevée, et donc on les prend et on sait jamais si on les vole ou si on rend hommage à la personne qui l'a dite. Mais c'est important d'avoir plusieurs niveaux de lecture sur le même univers, sinon on devient au mieux un prof, au pire un gourou, quoi. Et c'est pas du tout mon envie. J'aime bien toujours, quand je mets quelque chose en place, montrer en même temps que c'est fragile, montrer que en fait c'est une manière de voir les choses, mais qu'elle vaut pas plus qu'une autre, et que ça n'est que l'endroit depuis lequel j'écris qui me paraît intéressant au moment où je le fais, et puis pour les personnes qui veulent bien le partager avec moi, mais que voilà, le champ des possibles est infini, hein, faut jamais l'oublier.
Une autre question qui traverse ici Commence en amour, c'est celle de la morale, et notamment la possibilité d'une pureté morale, mais aussi de son intérêt ou non pour la littérature. Par exemple, Laszlo, une fois de plus, dit « c'est immoral, mais c'est pour ça que c'est intéressant », au moment où il lit le manuscrit Théo. Et il y a toute cette question, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, écrire au XXIe siècle, dans ce rapport à la morale?
Oui, c'est d'ailleurs des questions qui nous traversent, hein, avec lesquelles on vit tous les jours. C'est vrai que je supporte pas, mais c'est vraiment un réflexe épidermique, un sursaut de survie, la volonté de moraliser les objets de la création. Je pense que les processus créatifs peuvent l'être, c'est très important de le faire à plein d'endroits pour que ça se passe bien. Mais le contenu de ce qui sort de la tête d'un ou d'une artiste, si on commence à nous demander d'être moral dans ce qu'on produit, alors que l'art est aussi pour moi un moyen justement d'exprimer nos parts d'ombre, nos parts vrillées, nos parts de névrose, et de les accepter, de vivre avec et d'entretenir un rapport sain avec. On rentre dans quelque chose qui est hygiéniste et fascisant dans une certaine mesure, et en même temps c'est hyper important d'être délicat, de savoir où est-ce qu'on met les mains, où est-ce qu'on met les pieds, de se reposer les questions de ce que c'est qu'un récit, de l'altérité, de ce qu'on prend à l'autre, du droit qu'on a d'utiliser des vécus qui sont pas les nôtres. Enfin, voilà, j'ai pas de réponse à ces questions, mais je me les pose tous les jours et je les trouve fascinantes.
La vraie peur de Théo, je pense que c'est la compromission en réalité.
Ouais.
C'est d'arriver à un moment où il serait plus lui-même, justement parce qu'il serait mangé soit par le milieu, par le désir, où il se laisserait aller. Et est-ce que c'est votre peur aussi ?
La compromission, non pas, ça va. Je pense que j'ai un truc effronté qui fait que ça me protège. Et puis, en fait, j'aime l'endroit où j'existe, que j'ai inventé. J'ai vraiment inventé mon monde et ma manière de vivre, ce qui fait que je suis pas appelé par d'autres choses. Donc ça va maintenant.
Mais est-ce que c'est pas quand même le doute et le désir qui finalement fabriquent aussi une forme d'énergie de l'écriture?
Bah bien sûr, ouais, si. Y a un truc hyper libidinal quand même dans le fait d'écrire et hyper fragile en même temps. Donc c'est ça, c'est tellement sensible. Et c'est ce que j'aime voir aussi chez les autres quand je mène des ateliers d'écriture et que d'un coup il y a quelque chose qui naît comme ça, qui est en train d'éclore. C'est très fragile et très puissant en même temps. C'est fascinant. Donc on a ça en nous-mêmes et qu'on arrive petit à petit à le canaliser, à l'aiguiller, et à le rassembler. C'est très heureux. Des fois, je pense qu'il y a effectivement quand même cette peur de le voir dévoyer. Alors pas au service de quelque chose, contrairement à Théo, qu'il récuse, mais plutôt de laisser, à travers l'écriture, prendre le dessus à des choses qui demanderaient à être parfois domptées ou canalisées. Ce que je tends à faire de livre en livre, hein. Je pense que le niveau de radicalité dans la violence de mes textes tend à se déplacer pour trouver d'autres choses ou d'autres formes qui sont peut-être moins spectaculaires, moins impactantes, moins choquantes, mais qui vont travailler plus en profondeur. Tout simplement parce que je les ai faites et qu'elles sont plus à faire. Je pense que voilà, le risque, ça serait plutôt ça, de me dire il y a des choses que j'ai faites qui ont marché et donc du coup je pourrais faire une recette. Et ça, c'est ça dont il faut se garder.
Merci beaucoup Simon Johannin.
Merci.
Votre roman Ici commence un amour est paru aux éditions Alia. Cet entretien littéraire était réalisé par Laure-Hélène Planchet avec Marie-Pierre Oumabadi à la technique aujourd'hui. Merci à Aurélie Marsay et Théa Corler qui m'ont aidé pour la préparation. Nous nous retrouverons samedi prochain. Mais d'ici là, l'entretien littéraire est à réécouter et même podcaster sur le site de France Culture ou l'appli de Radio France.